Donc, Actes chapitre 28 à partir du verset 17. Et vous avez bien fait de venir aujourd'hui, parce que nous allons lire jusqu'à la fin du livre des Actes. Et donc, normalement, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prêche dans les Actes, à moins que, bien sûr, je revienne sur un texte, etc. Mais officiellement, la série se termine aujourd'hui. Actes 28 à partir du verset 17. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les notables des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison, et de Jérusalem livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent. Et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi, mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu, et cherchait, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple » et dit « Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Ainsi se termine le livre des Actes. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, la richesse qu'elle contient. Merci pour tout ce que tu nous as déjà enseigné à travers notamment le livre des Actes. Et nous te remettons encore aujourd'hui ces moments de réflexion, afin que ton Saint-Esprit lui-même nous rende disponibles et à l'écoute de ta voix. Permets, Seigneur, que notre foi soit nourrie et fortifiée à travers la prédication de ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Quel est votre rapport à l'Ancien Testament? Vous savez, ce livre qui parle d'un Dieu légaliste et intolérant. Êtes-vous de ceux qui prennent leur distance avec l'Ancien Testament? Êtes-vous de ceux, comme moi, qui ont beaucoup plus abîmé par la lecture les pages du 3e tiers de leur Bible que celles des 2 premiers tiers? Êtes-vous de ceux qui pensent que le Dieu cruel des Juifs a cédé sa place au Dieu d'amour des chrétiens? On a bien l'impression parfois, même si ce n'est pas ce que nous disons exactement, que la foi chrétienne, de par sa nature, s'inscrit en opposition avec la foi de l'Ancien Testament. On dirait, n'est-ce pas, que Jésus et les apôtres, à leur époque, sont les fondateurs d'une religion nouvelle. Aujourd'hui, les chrétiens croient au Dieu du Nouveau Testament, mais celui de l'Ancien, on ne sait pas vraiment où le mettre, finalement. Mais très clairement, je crois que le texte que nous avons lu ce matin va nous montrer que cette idée selon laquelle la foi du Nouveau Testament s'opposerait de par sa nature à la foi de l'Ancien Testament, que cette idée est une idée reçue. C'est une idée reçue. Et ce texte, tout en détruisant cette idée reçue, va nous aider à prendre la mesure, j'espère, à prendre la mesure de notre lien en tant que chrétien avec l'espérance de l'Ancien Testament. Un lien qui est très fort, peut-être plus fort que nous ne le pensons. En racontant cet épisode final donc du livre des Actes, l'auteur veut nous montrer quelque chose. Et il veut insister là-dessus pour terminer son exposé. C'est que le témoignage de Paul et le témoignage de tout le Nouveau Testament est absolument conforme au témoignage de l'Ancien Testament. Et pour nous ce matin, ça veut dire que l'Ancien Testament est constitutif de notre foi chrétienne. L'Ancien Testament est constitutif de notre foi chrétienne. Quel devrait donc être notre rapport à l'Ancien Testament? Eh bien, regardons comment le texte en parle lui-même. La première chose qui frappe dans cet épisode que nous avons lu à partir du verset 17, c'est le souci que Paul a pour la population juive de Rome. Celui qui s'appelle lui-même, l'apôtre des païens. Quelle est la première chose qu'il fait en arrivant à Rome? C'est pas d'aller à la rencontre des païens. 3 jours après son arrivée, il va chercher en tout premier lieu à rencontrer les responsables des juifs pour leur expliquer notamment qu'il n'a en rien trahi la foi des juifs et que s'il a été arrêté, dit-il, c'est en fait à cause de sa fidélité au judaïsme. C'est à cause de sa fidélité au judaïsme. Verset 20. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. L'auteur est en train de faire une première affirmation. C'est que Paul, en tant que témoin de l'Évangile, est porteur d'un message juif pour les juifs. Paul, en tant que témoin de l'Évangile, est porteur d'un message juif pour les juifs. Combien d'entre vous avez vu le film « Seul au monde » avec Tom Hanks, Cast Away pour les anglophones, avec Tom Hanks qui se retrouve naufragé sur une île pendant 4 ans. Il est employé de la société FedEx qui envoie donc des colis et des lettres, vous savez. Il est naufragé pendant 4 ans sur une île et pendant tout ce temps, il y a un paquet avec lui sur l'île qu'il refuse d'ouvrir. Le personnage est déterminé à livrer un jour, quand il s'en sortira, ce paquet à son destinataire. Si vous avez vu ce film, c'est très fort. Et finalement, désolé si vous n'avez pas vu le film, mais voilà comment ça se termine. Hein. Finalement, il va réussir à quitter l'île. Bon, hein, c'est un film hollywoodien, il fallait bien que ça se termine bien. Il va réussir à quitter l'île, il va réussir à retrouver la civilisation. Bon, il y a toutes sortes de détails que je ne vous dis pas, vous pourrez quand même regarder le film et être surpris. Mais une des premières choses qu'il va faire de retour chez lui, parmi la civilisation, c'est de livrer en personne ce fameux paquet à l'adresse indiquée sur l'étiquette. Ce paquet qui a été avec lui pendant 4 ans et qu'il n'a pas ouvert. Je ne sais pas si c'était fait exprès hein, dans la réalisation du film, mais Paul aussi, il a été naufragé sur une île, avec du courrier, entre guillemets. Jésus lui avait dit quelques chapitres auparavant, « Il faut que tu rendes témoignage à Rome, je te confie un courrier que tu dois livrer à Rome, le témoignage à l'Évangile. » Jésus lui avait confié un message important. Ce message de l'Évangile est sitôt rescapé de son naufrage sur l'île. Après les 3 mois, il réussit à arriver à Rome. La première chose qu'il s'empresse de faire, Paul, c'est de remettre le courrier à son destinataire légitime. Au bout de 3 jours, il convoque les Juifs. Nous découvrons que ses destinataires sont en premier lieu les Juifs. Mais nous voyons aussi combien Paul est consciencieux par rapport au message qu'il est chargé de transmettre. Il a conscience que ce courrier, ça fait longtemps que les Juifs l'attendent. Ça fait longtemps, c'est l'espérance d'Israël. Au bout de 3 jours, je ne sais pas s'il a eu le temps de vraiment reprendre des forces après le temps qu'il a passé en voyage et naufragé sur l'île de Malte, mais au bout de 3 jours, il convoque les notables et il leur livre ce courrier qu'ils attendent depuis longtemps, depuis des siècles en fait. De ce premier point, je crois qu'on peut tirer une première application. L'évangile n'est pas une invention de Jésus ou des apôtres. Mais c'est la réponse à une attente millénaire, l'attente de tout l'Ancien Testament. Le témoignage de Paul et de tout le Nouveau Testament, c'est le couronnement de plusieurs millénaires d'histoire de la révélation. Ce n'est pas un remplacement de cette révélation, mais c'est son couronnement. Le courrier a enfin été livré dans son intégralité, de manière diligente et consciencieuse par l'apôtre. Et sur la petite, vous savez, sur les courriers, il y a une petite étiquette verte, on est censé marquer le contenu du paquet, hein. Quand on envoie un paquet, notamment à l'étranger, je ne sais pas si vous y arrivez, on est censé marquer le contenu et le prix du contenu. Ben sur la petite étiquette qui indique le contenu du paquet de Paul, il y a écrit dessus « Réponse à l'attente millénaire de l'humanité ». Alors quel genre d'attention devrions-nous porter à ce message si précieux? Quel genre d'attention devrions-nous aujourd'hui porter à ce message si précieux? Bon, regardons la suite du texte. La deuxième chose qui nous est indiquée dans ce récit, à partir du verset 21, c'est la bonne disposition des responsables juifs à entendre Paul. Ils n'ont pas de préjugés vis-à-vis de lui, ils lui disent « Personne n'est venu pour dire du mal de toi ». Ils s'intéressent même à la foi chrétienne qu'ils considèrent, remarquez bien, qu'ils considèrent comme étant une branche du judaïsme. On aimerait bien entendre ce que tu penses, parce qu'il paraît que ce parti, cette branche de notre religion, rencontre la contradiction. Ils vont écouter Paul du matin jusqu'au soir. Et quelques-uns même vont recevoir positivement le témoignage de Paul. Tout ça nous est dit entre les versets 21 et 24. Ce que l'auteur est en train de nous montrer dans un deuxième temps, c'est que les responsables juifs, a priori, reconnaissent qu'ils sont les premiers concernés par le message de Paul, par le témoignage à l'Évangile. C'est comme, justement, lorsque vous recevez un colis chez vous et que le facteur tape à la porte et vous présente une grosse boîte. Eh ben oui, tiens, surprise, sur l'étiquette, il y a bien votre nom et c'est bien votre adresse. Et d'ailleurs, l'écriture vous dit bien quelque chose. Ah oui, cette écriture, c'est celle de Tante Mathilde. Je me demande bien ce qu'elle devient. Vous reconnaissez ce paquet, c'est bien pour vous. L'auteur est en train... les Juifs, ici, ils ont la même réaction. Ah oui, ça nous concerne. Et ils sont prêts à écouter ce que Paul a à dire à ce sujet pendant une journée complète du matin jusqu'au soir. L'auteur est en train de confirmer par là que l'Évangile constitue bien la réponse tant attendue à l'espérance millénaire de l'Ancien Testament. L'Évangile constitue bien la réponse tant attendue à l'espérance millénaire de l'Ancien Testament. Depuis tant de siècles, Dieu avait promis qu'il rachèterait l'humanité. Depuis tant de siècles, Dieu avait promis que pour faire cela, pour accomplir ce plan, il allait se constituer un peuple. Il allait effectuer pour ce peuple le pardon de leurs péchés. Tout ça, Dieu l'avait annoncé, il l'avait promis à l'avance. Et ensuite qu'il donnerait à ce peuple un roi dont le règne serait éternel. Et que tout cela servirait à déployer la connaissance de Dieu dans le monde entier. Tout ça, Dieu l'avait promis à l'avance. Il avait décrit, en tout cas dans les grandes lignes, quel serait son plan. Et voilà ce que le peuple de Dieu attendait. Et que fait Paul pendant une journée entière? Il déclare aux responsables juifs que tout cela se réalise en Jésus-Christ. Ben, c'est ce qu'il dit. Le Messie attendu. Jésus, la descendance promise à Ève, puis à Abraham, Jésus le prophète promis à Moïse, Jésus le roi promis à David, Jésus le prêtre et le médiateur annoncé par le tabernacle. Jésus a réalisé le pardon des péchés de son peuple en mourant sur la croix pour son peuple. Jésus a vaincu tous les ennemis de son peuple en sortant du tombeau pour son peuple. Jésus a établi le règne de son peuple en montant au ciel à la droite de Dieu au-dessus de toute la création pour son peuple. Et aujourd'hui, les hommes sont invités à se confier en Jésus pour entrer au bénéfice de tout ce qu'il a réalisé. Vous voyez ce qui est dit au verset 23. Dans son exposé, Paul rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes, c'est-à-dire par l'Ancien Testament, hein, à les persuader en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne Jésus. Alors, de ce deuxième point, nous pouvons tirer une deuxième application. Avez-vous, ce matin, déjà considéré quelle était véritablement l'invitation de l'Évangile ? Il ne s'agit pas d'une invention du premier siècle, ni du Nouveau Testament, mais il s'agit de tout ce dont vous et toute l'humanité avez toujours eu besoin. Et tout cela vous est offert en la personne de Jésus-Christ. Avez-vous déjà mesuré l'ampleur de l'invitation qui vous est adressée par l'Évangile? Et regardons la suite, à partir du verset 25. La troisième chose qui nous est montrée dans ce récit, c'est que les Juifs, bien qu'ils reconnaissent leur nom sur l'étiquette, bien qu'ils reconnaissent l'écriture de Tante Mathilde, si j'ose dire, ils savent qu'ils sont concernés, ils savent que c'est pour eux, mais ils refusent, pour la plupart en tout cas, de recevoir ce paquet, de recevoir le contenu du paquet. Paul constate ce refus et il va citer une prophétie de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, et à travers cette citation, il attribue l'attitude des responsables juifs qui refusent le contenu du paquet, et il attribue cette attitude à un aveuglement. Un aveuglement irrationnel, un problème de cœur, un problème profond. Un paquet tant attendu, un contenu si précieux, une telle bonne nouvelle. L'auteur nous montre que ce refus est vraiment, vraiment irrationnel. C'est comme si on vous offrait un chèque à votre nom d'1 million d'euros tiré sur le compte de Bill Gates et que vous disiez « Non, merci. » Irrationnel. La seule explication possible, c'est un aveuglement. C'est un problème profond, un problème de cœur. Ces quelques versets nous montrent que le refus des Juifs ne tient pas au manque de crédibilité de l'Évangile. Mais il tient à leur propre aveuglement. Le refus des Juifs ne tient pas au manque de crédibilité de l'Évangile, mais il tient à leur propre aveuglement. L'invitation de l'Évangile est tellement cohérente, tellement évidente, tellement bonne, tellement bien ancrée dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la révélation et dans toute l'histoire d'Israël, que le fait de nier cette bonne nouvelle ne peut tenir qu'à des raisons vraiment profondes. Et il dit au verset 27, « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. » De ce troisième point, on peut tirer donc une troisième application. Il y a là, dans cette citation du prophète Ésaïe, une mise en garde, un avertissement concernant la disposition de notre cœur. À quoi notre cœur est-il le plus sensible? Est-il sensible à la voix de Dieu, à l'invitation de l'Évangile et au règne bienveillant qu'il compte déployer dans notre vie? Ou bien notre cœur est-il plutôt sensible à la voix du monde, à la voix de nos propres désirs? Attention à ce que la disposition de notre cœur n'entraîne chez nous l'obstruction de nos yeux et de nos oreilles devant la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Attention. Paul cite ces versets en rapport, certes, avec l'aveuglement des Juifs en particulier, mais ailleurs, Paul dit que tout le monde est susceptible de tomber dans le même aveuglement. Dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, ils ont l'intelligence obscurcie, dit-il, au sujet des non-Juifs. Mais regardons maintenant la fin, la suite et la fin de l'histoire, à partir du verset 28 jusqu'à la fin. Après avoir cité le prophète Ésaïe, Paul va faire une affirmation absolument scandaleuse. C'est que le message destiné en premier aux Juifs est également offert au monde entier. Hein, quand le Nouveau Testament, ou l'Ancien d'ailleurs, parle des païens, il s'agit de ceux qui ne sont pas Juifs. Quand l'Ancien Testament notamment parle des nations, il s'agit des autres nations qu'Israël, il s'agit des autres, le reste du monde. Et Paul dit, sachez que ce salut de Dieu qui vous a été envoyé aux païens. Et eux, ils l'écouteront. Quelle affirmation scandaleuse qui ne manque pas de susciter une vive réaction de la part des Juifs. Et en ayant fait cette déclaration solennelle, le récit va quand même se terminer positivement, avec les portes grandes ouvertes sur le monde non-juif. Paul va rester 2 années entières à prêcher librement, à recevoir chez lui tous ceux qui viennent le voir, et il prêche en toute assurance et sans empêchement, nous dit le texte. Ça se termine comme ça. Le livre des Actes se termine sur une porte qui est grande ouverte sur le reste du monde. Mais notez bien, au verset 31, que ce que Paul prêche aux non-juifs consiste exactement en ce qu'il avait annoncé aux juifs. Comparez le verset 31 et le verset 23. Qu'est-ce qu'il expose aux juifs ? Il rend témoignage du royaume de Dieu et cherche à les persuader en ce qui concerne Jésus. Qu'est-ce qu'il expose aux païens ? Verset 31. Il prêche le royaume de Dieu et enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus. La même chose. C'est Jésus lui-même qui nous donne l'illustration de ce point. On l'a lu tout à l'heure, c'est la parabole des invités. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui organise une grande fête, un grand repas, et qui envoie son serviteur pour dire aux invités de venir. Mais ces invités trouvent tous une excuse pour ne pas venir. Oh, je viens de m'acheter une paire de bœufs et j'ai envie de les essayer, je ne peux pas venir. Je viens de me marier, je suis trop occupé, je ne peux pas venir. Finalement, le maître va dire à son serviteur d'inviter finalement tous les gens qu'il rencontre sur son chemin, commencer par les infirmes, les gens humbles, hein, contrits, blessés. Mais cette invitation va s'étendre ensuite à tous ceux qu'il va rencontrer sur le chemin, et dit-il, le long des haies. Ce qui est frappant dans cette parabole, et qui nous échappe peut-être parfois, c'est que c'est le même maître, c'est la même maison, c'est le même serviteur, c'est la même fête, et c'est le même menu. Ce n'est que la liste des convives qui est modifiée. Et la fin du livre des Actes nous montre exactement la même chose, c'est que l'invitation de l'évangile adressée aux non-juifs, c'est-à-dire à nous, sauf si vous êtes juifs, mais l'invitation de l'évangile adressée aux non-juifs, c'est exactement la même que celle qui était adressée en premier aux juifs. C'est la même invitation, c'est le même maître, c'est le même serviteur, c'est le même menu. Alors quelle application pouvons-nous tirer de ce quatrième et dernier point ? Humilité, crainte et vigilance. Humilité, crainte et vigilance. Humilité, parce qu'en tant que non-juifs, si nous sommes croyants, la Bible nous dit qu'on a été greffé par pure grâce et par élection souveraine à un arbre séculaire qui ne nous portait pas à l'origine. Romains chapitre 11, lisez ce chapitre et vous verrez. Crainte, parce que c'est par la foi que nous y subsistons sur cet arbre, nous dit Paul. Et il ajoute, Romains 11, verset 21, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus, toi qui es une branche pas naturelle, mais qui a été greffée sur cet arbre séculaire. Et vigilance enfin, parce que nous sommes enclins, en tant que non-juifs, à sous-estimer l'ancrage de notre espérance chrétienne dans l'Ancien Testament. Et donc, parce que nous sous-estimons l'ancrage de notre espérance chrétienne dans l'Ancien Testament, eh bien, à cause de l'influence, par exemple, des philosophes grecs qui ont tellement façonné la mentalité d'aujourd'hui, à cause de l'influence des philosophes des Lumières, à cause plus récemment de l'influence des philosophes existentialistes, nous risquons d'avoir une compréhension quelque peu déformée, quelque peu tronquée de ce que ça veut vraiment dire d'être un chrétien. Alors que la définition même de ce que ça veut dire d'être un chrétien, nous devrions la tirer de la parole de Dieu et pas de la philosophie qui a façonné la mentalité de notre société. Bon, comment est-ce qu'on peut résumer tout ça pour terminer ? Ce que ce texte a voulu nous montrer finalement, en conclusion au livre des Actes, c'est ce que je disais au début, l'Ancien Testament est constitutif de la foi chrétienne. Vous savez, dès le deuxième siècle, okay, il y a quelqu'un du nom de Marcion. Il ne venait pas de Mars, Marcion. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait Marcion qui est apparu et qui a déclaré que le Dieu cruel, légaliste, rigide de l'Ancien Testament et des Juifs avait été remplacé par le Dieu d'amour et de grâce de Jésus et du Nouveau Testament. Marcion a milité pour la suppression dans la Bible de tout l'Ancien Testament et même de certaines parties du Nouveau Testament sur la base de sa supposition concernant la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Heureusement pour nous, heureusement pour l'histoire, Marcion a été rapidement déclaré un hérétique. Un hérétique. Le problème, c'est que même si on n'est pas des disciples de Marcion à travers ce que nous professons, parce qu'on a une profession de foi qui est tout à fait orthodoxe, tout à fait droite et biblique, même si nous ne sommes pas des martionnistes dogmatiques, hein, nous tombons parfois dans un martionnisme pratique. Nous négligeons dans les faits, dans la pratique, l'apport de l'Ancien Testament. Nous manifestons parfois une forme de dualisme, pas du tout biblique, entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Nous montrons parfois, bien malgré nous, bien malgré nos belles professions de foi, nous montrons parfois un visage anti-judaïque, comme si la foi chrétienne s'inscrivait en opposition à la foi juive dans l'Ancien Testament. Vous savez, j'ai pu lire récemment, en préparant cette prédication, j'ai lu sur un blog hébergé par le site internet du magazine, du journal Le Monde, j'ai lu cette affirmation qui m'a fait un peu sursauter sur mon siège. Je cite, « L'anti-judaïsme est constitutif de l'identité de l'Église chrétienne. » Point. Cette affirmation, vous savez, elle m'a fait bondir, mais elle ne m'a pas totalement surpris. Elle est représentative d'un préjugé assez commun vis-à-vis de la foi chrétienne. Un préjugé qui s'explique assez facilement d'ailleurs. Ne disons-nous pas que ce sont effectivement les juifs de l'époque, en tout cas, qui sont responsables de la crucifixion du Messie, de Jésus? Ne disons-nous pas effectivement que le vrai peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église chrétienne? Mais pour autant, cela veut-il dire que la révélation du Nouveau Testament se substitue à la révélation de l'Ancien Testament? Cela veut-il dire pour autant que la foi chrétienne depuis Jésus s'inscrit en opposition à la foi juive d'avant Jésus? Au point où nous pourrions aujourd'hui nous permettre, par exemple, comme je sais que ça se fait, on pourrait se permettre de posséder comme Bible, entre guillemets, un livre qui ne contiendrait que les écrits évangéliques et apostoliques, c'est-à-dire que le Nouveau Testament. Un Nouveau Testament, c'est un Nouveau Testament, mais un Nouveau Testament, ce n'est pas une Bible. Ce n'est pas le livre de l'Alliance, un Nouveau Testament tout seul. La réponse à ce problème se trouve, mes amis, dans l'étude biblique du jeudi soir. Survol de l'Ancien Testament. Mais plus largement, bien sûr, la réponse à ce problème se trouve dans une étude assidue de l'Ancien Testament pour mieux prendre la mesure des racines profondes et caractéristiques de la foi chrétienne. Ce texte nous a montré que l'Évangile était certifié conforme à l'Ancien Testament. Et qu'en tant que chrétien, comme Paul, tenez-vous bien, en tant que chrétien, ce que nous confessons, c'est l'espérance d'Israël. Et c'est Paul qui rajoute dans l'Épître aux Galates, si vous êtes à Christ, si vous êtes chrétien, si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen.